un journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Un point sur l'épidémie de coronavirus à travers le monde dans ce journal. Nous nous intéresserons en particulier à des soupçons de mutation du virus Covid-19. Ce sera dans un instant avec Tara Schlegel. Des braconniers à Marseille condamnés pour préjudice écologique. C'est une première. Ils pêchaient le poulpe et l'oursin en apnée dans les eaux protégées du parc national des Calanques. Et puis l'enquête de cette édition sur l'affaire Joël Le Squarnec avec de nouvelles révélations de Laetitia Chérel de la cellule d'investigation de Radio France. Le coronavirus a déjà infecté 100 000 personnes à travers le monde d'après un décompte effectué par l'agence France Presse cet après-midi. En France, 577 cas ont été recensés et 9 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Ce soir, une réunion interministérielle doit permettre au gouvernement de faire le point autour d'Édouard Philippe qui doit prendre la parole à l'issue de cette réunion dans le courant de la soirée. Donc, au niveau scientifique, une question agite les chercheurs de par le monde. Le Covid-19 aurait-il déjà muté? Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Le virus serait-il désormais plus transmissible, peut-être plus virulent? C'est ce que tendrait à prouver une étude signée de scientifiques chinois publiée au début du mois de mars. Quel crédit, Tara, peut-on donner à ces informations?
Ce travail est publié dans une revue exclusivement chinoise par une douzaine de chercheurs, notamment de l'université de Pékin. Il n'y a pas d'informations sur le reviewing, la relecture scientifique de cet article. Normalement, une évaluation internationale avant publication est de mise. Mais en ce moment, bien entendu, le temps presse. Donc, pas de relecture en tout cas, mais surtout, il manque une donnée de taille. Les experts ont étudié les séquences de 103 génomes du virus prélevés chez des malades en début d'épidémie et chez des malades infectés plus tardivement. Ils ont comparé ces séquences de virus, mais ils ne disent pas à quel point ce travail bioinformatique a été approfondi, comme l'explique la virologue Anne Goffard.
Plus on fait tourner les algorithmes longtemps et plus ils comparent souvent ces séquences entre elles, plus les résultats sont solides. C'est ce qu'on appelle les valeurs de bootstrap qui permettent, quand elles sont très élevées, de dire l'analyse est solide. Là, nous n'avons aucune information sur ces valeurs de bootstrap, par exemple.
Et il n'empêche que la question reste intéressante, ajoute le professeur Goffard de l'Institut Pasteur de Lille, car elle permettrait, c'est au conditionnel, de comprendre en temps réel l'évolution du virus.
Il faut prendre cette conclusion avec précaution et il faudra que ces résultats soient confirmés sur d'autres analyses. Mais ce qu'ils disent, c'est ce SARS-CoV-2 a émergé à partir de l'animal et s'est présenté chez l'homme. Au début, il n'était pas très contagieux, mais probablement très virulent. Et les souches ont évolué par adaptation, il y a eu des mutations sur le génome viral qui font que ce virus est devenu beaucoup plus contagieux et donc il a mieux infecté les humains. Par contre, il aurait un peu perdu en virulence. Ce mécanisme d'adaptation-là a déjà été décrit pour le VIH par exemple, pour les virus grippaux régulièrement. Et là, ce serait une preuve de l'évolution de ce COVID qui circule en ce moment.
Un autre virologue, le professeur Lina à Lyon, assurait hier que les résultats de cette étude étaient surinterprétés. En tout cas, d'autres équipes vont probablement effectuer les mêmes opérations, mais il faudra au moins un mois ou deux avant de valider ou d'invalider ces données chinoises.
Merci Tara Schlegel. Au niveau économique, le transport aérien semble particulièrement touché par le ralentissement économique et par l'effondrement du secteur touristique. La compagnie allemande Lufthansa pourrait annuler jusqu'à 50% de ses vols et Air France recommande aujourd'hui à ses salariés de prendre des congés avec ou sans solde dans les semaines qui viennent. À l'échelle de la planète, quels effets cette épidémie de coronavirus aura-t-elle sur l'économie et sur la mondialisation, et en particulier sur d'éventuelles relocalisations évoquées d'ailleurs récemment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Concernant PSA, entreprise française bien implantée en Chine, beaucoup de questions se posent déjà pour un avenir plus ou moins proche. Hakim Kasmi.
Si PSA ne représente que 1% du marché automobile chinois, il travaille en revanche avec 300 fournisseurs localement. Des fournisseurs qui produisent aussi bien des petites pièces que des grosses à forte valeur ajoutée, comme une partie de ses moteurs. Du coup, relocaliser une partie en France ou en Europe aurait un coût qui se répercuterait automatiquement sur le prix des voitures, un scénario qui n'est pas à exclure selon Carlos Tavares, le PDG de PSA.
Si on souhaite que tous les biens de consommation soient produits dans un rayon à définir, c'est une décision sociétale qui est tout à fait respectable. Il faut simplement qu'il y ait des leaders suffisamment aguerris pour qu'ils puissent expliquer aux concitoyens l'ensemble des conséquences d'une telle décision. Mais techniquement, évidemment, c'est possible.
Les voitures coûteraient plus cher par contre.
Ça, ce sera au consommateur de le constater, mais je pense qu'on est à un niveau de profondeur de cette analyse qui, pour l'instant, n'est pas suffisant.
En attendant la reprise de l'activité des usines PSA en Chine, qui est prévue pour l'instant mercredi prochain, le constructeur a demandé à ses équipementiers du monde entier de compenser en produisant des pièces normalement faites en Chine. Des pièces qu'il fait venir par avion pour réduire les délais de livraison et éviter les ruptures de stock. Enfin, au-delà de la crise du coronavirus, PSA prévient pour l'instant pas question de se retirer de Chine.
Alors en Chine, justement, où en est l'activité économique alors que le gouvernement semble communiquer ces dernières heures, ces derniers jours sur une lente mais réelle reprise d'activité? Qu'en est-il? Écoutez les éléments de réponse donnés par notre correspondant en Chine, Stéphane Pombrin.
Sous la pression de l'État, la production a officiellement repris dans de nombreux centres industriels du pays. 90% des usines seraient au travail dans les deux poumons industriels chinois que sont la province de Canton et celle du Zhejiang au sud de Shanghai. Plus de 6 millions d'ouvriers ont même été transportés directement dans les usines par des trains et des avions affrétés par le gouvernement. Le message est clair, l'usine du monde est de nouveau opérationnelle. Oui, mais voilà, l'image est certainement trompeuse. Selon un cabinet d'études indépendant, seuls 40% des entreprises ont repris leurs activités. Le magazine Caixin va même plus loin et révèle dans une des rares enquêtes ayant échappé à la censure que beaucoup de ces usines en fait ne fonctionnent pas. Les patrons feraient tourner les machines sans ouvriers en laissant toutes les lumières allumées pour assurer une consommation d'électricité importante. La consommation électrique étant en effet l'un des critères en Chine pour mesurer l'activité. Les provinces chinoises espèrent ainsi satisfaire aux demandes du gouvernement central tout en évitant une flambée de l'épidémie et des mesures de précaution très coûteuses à mettre en place.
Stéphane Pombrin. Les prix du pétrole continuent à plonger. Les négociations entre les pays de l'OPEP et leurs alliés n'ont rien donné. L'OPEP souhaitait une baisse de la production de 1,5 million de barils par jour, ce à quoi la Russie s'est opposée. Le baril de Brent de la mer du Nord était tout à l'heure en baisse de 7% par rapport à hier. En France, une première à Marseille, où 4 braconniers pêcheurs en apnée dans les eaux du parc national des Calanques viennent d'être condamnés à 385 000 euros d'amende pour préjudice environnemental. Ils avaient déjà été condamnés au pénal pour avoir pêché des espèces protégées. Ils devront donc en plus payer des dommages et intérêts. Décision au civil très importante et très intéressante pour Mathilde Autreau-Boutonnet. Elle est professeure de droit à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de l'environnement.
Elle est intéressante parce que en droit français, il existe depuis 2016 une loi qui est la loi biodiversité qui est intégrée dans notre code civil. Un dispositif de réparation du préjudice écologique. Il permet et il oblige même celui qui a causé un dommage écologique à le réparer. Ce qui signifie que dorénavant, il est possible de réparer les préjudices qui sont causés directement à la nature. Le jugement va en faire une première application. Il s'agissait d'espèces protégées, il s'agissait de zones protégées, donc il y avait un critère de gravité qui était rempli. Et l'évaluation du préjudice écologique, ça c'est extrêmement difficile. Comment vous voulez exactement calculer ce que vaut la nature et ce que vaut la destruction de la nature? Et là, c'est une application très intéressante puisque les dommages intérêts qui vont être fixés, ils vont être fixés au regard de deux considérations. Premièrement, la quantité qui a été braconnée. Secondement, la qualité. Et la qualité, c'est quoi? C'est plus précisément l'importance du rôle joué par ces espèces, les poissons, les coquillages, les poulpes, dans la biodiversité et dans l'écosystème. Mais ça veut donc dire que l'on peut évaluer selon l'importance quantitative mais aussi qualitative de ce que vaut la nature, telle espèce dans la biodiversité.
Des propos recueillis par Florence Turme. Isabelle et Patrick Balkany ne sont plus à la tête de la mairie de Levallois. Deux jours après leur condamnation en appel à 3 ans de prison ferme et à 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale, le maire LR et sa première adjointe ont été démis de leur mandat, annonce ce soir la préfecture des Hauts-de-Seine. L'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls pourrait-il bientôt revenir dans le jeu politique français et à quel poste? La question semble se poser depuis plusieurs jours maintenant. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service politique de France Culture. Elle se pose cette question notamment depuis des déclarations assez explicites dans la presse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce retour semble planifié par le principal intéressé.
Oui, il avait franchi les Pyrénées il y a 1 an et demi. Il est retourné en Catalogne, là où il est né, avec dans l'idée de devenir maire de Barcelone. Il avait officialisé ce changement de vie en septembre 2018 en faisant sur France 2 ses adieux aux Français. C'est définitif, disait-il alors.
J'ai décidé de changer de vie, d'horizon. J'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à à Barcelone.
La vie politique française, elle est terminée.
Oui, mais c'est même un choix, encore une fois, j'insiste, de vie personnelle. Mais c'est un au revoir aux Français, chaleureux, tendre, et je reviendrai régulièrement.
Aujourd'hui, le discours de Manuel Valls a bien changé. Il a manifesté à plusieurs reprises et de façon très appuyée ses envies de retour en France. Avec, dans un premier temps, une interview sur RTL depuis Barcelone, dans laquelle il disait tout le bien qu'il pensait du discours d'Emmanuel Macron à Mulhouse sur le séparatisme islamique. C'était le 19 février dernier.
Je pense que le président de la République, il est conscient, lucide, et je crois qu'il pose le bon diagnostic sur le mal, qu'il utilise les mots justes, je pense à cette idée de séparatisme qu'il faut combattre.
Il y a une semaine, il est revenu à la charge avec une interview au journal Le Parisien, dans lequel il affirmait que la France était sa seule patrie. Quelques jours plus tard paraissait une tribune dans Le Figaro où il dénonçait la progression de l'antisémitisme. Et puis cet après-midi, dans son édition en date du samedi 7 mars, le journal Le Monde confirme les velléités de retour de l'ancien Premier ministre. Il participera notamment à la journée du livre politique le 28 mars à l'Assemblée nationale, nous dit Le Monde, ainsi qu'à un colloque sur l'islamisme au mois d'avril. Ce changement de pied s'explique d'abord par le contexte politique qui a bien changé pour Manuel Valls en Espagne. Il n'a pas remporté la mairie de Barcelone et il a perdu ses alliés de Ciudadanos, le parti de centre-droit qui a noué des alliances avec l'extrême droite. Il se retrouve donc isolé. Ensuite, il a besoin de vivre, confie un de ses proches, comprenez, de vivre politiquement. Il voit bien que Macron est en difficulté et qu'au municipal ce sera compliqué. Alors il se dit qu'il peut être utile. Utile à quoi ? Ça reste à déterminer. En tout cas, Manuel Valls fait savoir qu'il est disponible.
Merci Stéphane Robert. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir à la demande de la Russie au lendemain de l'accord de cessez-le-feu passé avec la Turquie à propos de la situation en Syrie. Le Kremlin essaie coûte que coûte de garder la main sur le terrain diplomatique. Claude Brouillot.
De la même façon que les États-Unis demandent à l'ONU d'endosser leur accord passé avec les talibans, le Kremlin aurait-il également la volonté de solliciter les autres membres du Conseil de sécurité afin de faire garantir à son tour l'application des dispositions négociées hier avec la Turquie pour stopper les combats dans la région d'Idlib? On se perd en conjecture ce soir à Moscou sur ce point dans la mesure où Vladimir Poutine a préféré négocier d'abord en bilatéral avec Recep Erdogan alors que la France et l'Allemagne avaient montré leur disponibilité. Et aujourd'hui, la Russie tenterait donc de faire en sorte que les Occidentaux mettent la pression sur la Turquie, non seulement sur le volet humanitaire, mais aussi pour qu'elle remplisse plus efficacement, selon le Kremlin, sa part du contrat mieux qu'elle ne l'a fait après l'accord de Sotchi en 2018. Au-delà de cette séquence diplomatique, l'objectif double de Vladimir Poutine reste le même. Premièrement, réduire au maximum les attaques des rebelles dans la région d'Idlib contre les bases russes et contre l'armée de son allié Al-Assad, et en second lieu, cranter chaque avancée territoriale vers le nord-ouest jusqu'à ne laisser possiblement qu'une bande de territoire dans laquelle la Turquie pourrait voir, espère Vladimir Poutine, une zone tampon suffisante afin d'éviter à son partenaire Recep Erdogan un échec trop cuisant.
Claude Brouillot. À Tunis, ce matin, deux kamikazes ont visé sans succès l'ambassade américaine. Leur cible, située en plein cœur du quartier des affaires de la capitale tunisienne, est restée inviolée. Les deux assaillants, eux, sont décédés. Correspondance de Maureen Mercier.
Les assaillants sont morts en tentant de forcer l'accès à l'ambassade. Ils roulaient sur une moto et se sont fait exploser contre un fourgon de police. Bilan pour l'heure, outre les deux assaillants, un lieutenant a été tué, quatre autres policiers ont été blessés. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Mais le mode opératoire correspond aux attaques qui ont lieu ponctuellement ces dernières années dans la capitale. Le dernier en date remonte au mois de juin dernier. Ce sont les forces de l'ordre qui sont le plus souvent visées avec des attaques de petite envergure menées par une ou deux personnes. Après la terrible année 2015 et les attentats du musée du Bardo et de la plage de Sousse qui avaient fait des dizaines de victimes, la sécurité s'est considérablement améliorée. Il n'empêche, le pays est sous état d'urgence depuis plus de 4 ans maintenant. Les récentes attaques n'ont fait que peu de victimes, mais les conséquences pour le pays sont désastreuses parce que ces attaques plombent l'économie et particulièrement le secteur touristique. Depuis la révolution de 2011, le pays fait face à un essor de la mouvance djihadiste.
Maureen Mercier à Tunis. La Villa Médicis connaît enfin, après 18 mois de tergiversation, le nom de son futur directeur, Sam Sturze, 47 ans. Il est actuel directeur des rencontres de la photographie d'Arles et il arrive pour ramener la sérénité dans la prestigieuse institution française à Rome. On l'écoute.
très heureux de cette nomination, très, très fier aussi, et un peu impressionné, humble face à la fois à la mesure de la tâche et au poids de l'histoire. La ville de la Médicis, ses 350 ans qui vous contemplent. Ma mission, ça va d'abord être une mission d'écoute, de rencontre, de compréhension. C'est un lieu pour autant que je connais, en tous les cas, du côté des pensionnaires, puisque j'y ai été pensionnaire il y a une douzaine d'années. C'est un lieu absolument formidable. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez accueillir des créateurs, des auteurs, des artistes et leur offrir un lieu de désintéressement. C'est ça, une résidence d'artistes. C'est un moment où pendant un an, vous pouvez de manière complètement désintéressée réfléchir, travailler, penser, créer. La Villa Médicis, c'est un lieu de rayonnement de la culture française. Et oui, la culture française a quelque chose à dire aujourd'hui, une voix à porter haut. Et ce message peut rayonner et peut être audible de par le monde.
Des propos recueillis par Maxime Tellier sur notre site internet franceculture.fr. Vous retrouverez une interview en longueur de Sam Sturze et un dossier sur cette nomination à la tête de la ville La Médicis. 18h16 sur France Culture. L'enquête maintenant du service investigation de Radio France sur l'affaire Joël Le Squarnec, ce chirurgien soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 349 enfants. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
Vous nous révélez ce soir que Joël Le Squarnec connaissait d'autres médecins condamnés pour des crimes ou des délits sexuels. Il travaillait dans les mêmes hôpitaux que lui, en Bretagne et en Charente-Maritime.
Effectivement, à l'hôpital de Quimperlé, tout d'abord, Joël Le Squarnec fréquentait un radiologue, le docteur Fréat. À partir de 2005, cet homme est accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs patientes lors de pseudo-examens gynécologiques. Le docteur Bonvalot, un psychiatre de l'hôpital, va voir alors le docteur Fréat pour exiger qu'il ne fasse plus d'examen sans témoin. Il raconte alors cette scène troublante entre le radiologue et Joël Le Squarnec.
On m'a dit qu'il était dans le bureau du docteur Le Squarnec et lui-même et le docteur Le Squarnec m'ont imposé, il n'y a pas d'autre mot, un entretien à trois. Donc je lui demandais formellement de modifier sa pratique. Donc il m'a répondu en gros qu'il s'en foutait, qu'il faisait ce qu'il voulait. Et il a été aidé par le docteur Le Squarnec qui m'a dit que je me mêlais de ce qu'il ne me regardait pas et qui a même terminé en me disant que c'était moi qui avais un problème sexuel pour embêter mes collègues de cette sorte.
Le radiologue sera finalement condamné à 18 ans de prison et s'enfuira avant la fin de son procès. Il est toujours introuvable.
Un autre cas pose question, Laetitia, et cette fois-ci à Jonzac, en Charente-Maritime.
Oui, Jonzac, c'est le dernier hôpital où Joël Le Squarnec a exercé. C'est là aussi que travaille un anesthésiste condamné en 2008 pour détention et diffusion d'images pédopornographiques à 3 mois de prison avec sursis, et cela sans obligation de soins ni interdiction d'exercer. Mais en 2007, au moment de l'arrestation de Joël Le Squarnec, les gendarmes retrouvent la trace de 3 appels entre les 2 hommes. Ils décident donc d'interroger l'anesthésiste. Et pendant son audition, l'homme reconnaît qu'il consulte toujours des images pédopornographiques. Nous avons fait lire un extrait de sa déposition.
Je ne consulte plus ce genre d'images de façon aussi régulière. C'est la vérité. Je considère ces images comme une évasion. Le fait d'en parler avec vous, je trouve ça motivant pour enclencher une démarche de soins.
Cet anesthésiste exerçait jusqu'à ce matin à l'hôpital de Jonzac, notamment auprès de patients mineurs. Suite à notre enquête, il a été suspendu par la direction de l'hôpital. Nous avons interrogé l'Ordre national des médecins et voilà ce que son président, Jean-Noël Mourgue, nous a dit.
Il a été condamné. Oui. Non, vous m'apprenez les choses. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Nous allons voir avec beaucoup de pugnacité et de diligence ce dossier et suite sera donnée.
Une enquête est en cours au sujet de ce médecin au parquet de Saintes. Mais pour maître Francesca Satta, l'avocate de plusieurs victimes de Joël Le Squarnec, ces 2 cas, celui du docteur Fréat à Quimperlé et celui de l'anesthésiste à Jonzac, soulèvent des questions.
Incontestablement, il va falloir creuser effectivement la raison pour laquelle autant de personnes se retrouvent situées aux mêmes endroits et sont visiblement des gens qui se connaissent, alors soit parce qu'ils travaillent sur le même lieu d'hôpital, soit parce qu'ils se connaissent aussi à l'extérieur de l'hôpital, mais en tous les cas, il faudra que l'enquête puisse démontrer s'il y a des liens, pas de liens, et comment on peut les expliquer, quoi.
Une enquête qui prendra sans doute plusieurs années. Le procès qui s'ouvre la semaine prochaine ne concerne que 4 plaignantes.
Merci beaucoup Laetitia Chérel. La météo, de la pluie et de la neige demain, un ciel souvent variable. 5 départements sont classés en vigilance orange crue. Le Calvados, l'Eure-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et le Tarn-et-Garonne. Température minimale demain au lever du jour de 0 à 3 degrés sur la moitié nord jusqu'à 8 degrés ailleurs.